Et il écoute.
La première victoire de la pensée économique actuelle, c'est qu'elle a gagné la guerre des mots. Nommer ce qui nous entoure nous permet de penser ce qui nous entoure. Les mots façonnent notre environnement et le construisent. On s'approprie et on comprend la réalité grâce à notre langage. Certes, nos émotions nous permettent également d'appréhender ce qui nous entoure, mais bien souvent, nous essayons de mettre des mots dessus pour mieux les comprendre. Comme le langage façonne notre manière de penser le monde, voyons voir quel monde la pensée économique actuelle nous fait penser. Et plus encore, comment cette manière de penser nous fait agir, car derrière les mots, il y a bien souvent des pratiques. Il serait trop long de décrypter tous les mots, c'est pourquoi nous nous centrerons plus spécifiquement sur certains mots en lien avec le chômage. On va parler du coût du travail, de la compétitivité et des charges sociales. Prenons le mot composé « coût du travail ». En linguistique, un mot composé est l'association entre deux lexèmes, morphèmes ou lèmes, qui forment ensuite un lème, dont le sens ne se laisse pas forcément deviner par celui de ses deux constituants. C'est vrai qu'a priori, quel est le lien entre un coût et le travail? Le petit Robert définit le coût comme une conséquence désagréable d'une erreur, une faute. Coûter se définit quant à lui comme causer, entraîner des frais et des dépenses. Le travail s'entend toujours comme le petit Robert, comme l'ensemble des activités humaines coordonnées en vue de produire quelque chose. Bien. Avant de s'attarder sur ce que l'assemblage de ces deux mots évoque, essayons de savoir à quelle réalité le mot composé « coût du travail » renvoie. Il s'agit, selon la définition officielle, du coût total supporté par l'employeur pour l'emploi de la main-d'œuvre. À ce stade, remarquons déjà que le point de vue adopté est bien celui de l'employeur et non celui de l'employé. Lorsqu'on utilise donc le mot « coût du travail », les travailleurs ne sont donc pas pris en compte. Or, le coût du travail renvoie aussi directement aux travailleurs puisqu'il correspond en partie à leur salaire. Dans la perception que nous avons donc que nous pouvons avoir du travail, quelles sont donc les conséquences de l'utilisation du terme « coût du travail » ? Il y en a trois. La première, il nie la place de la valeur travail dans la création de la richesse et donc occulte la revendication d'un droit de préséance des travailleurs sur ce qui a été créé. La deuxième conséquence, c'est que psychologiquement, il place le travailleur en situation d'infériorité par rapport à l'employeur, mais au capital et aux actionnaires, puisque le travailleur n'engendrerait que des frais et des dépenses pour le capital, l'employeur et les actionnaires. Et la troisième conséquence, c'est qu'un coût appelle nécessairement une réduction. Une pareille perception du travail ne peut dès lors engendrer autre chose qu'une pression sur les salaires et a fortiori sur les travailleurs. Le travailleur, envisagé essentiellement comme un salaire, devient uniquement un coût qu'il faut réduire pour être plus compétitif. Une réduction prônée par une pseudo-science économique au nom d'un célèbre théorème, celui de Schmitt, un économiste, qui dit « Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. » En d'autres termes, les pressions exercées sur les salaires sont de mauvais moments à passer, mais sont nécessaires pour relancer l'investissement et l'emploi. Or, en Belgique, depuis les années 80, la part salariale n'a fait que diminuer. Les investissements stagnent et les emplois ont pris la forme d'un chômage grandissant. Par contre, la part du profit non investi mais redistribué en dividendes aux actionnaires n'a fait que croître. Un petit exemple, les dividendes nets versés par les entreprises françaises dans les années 80 et puis en 1980 très exactement, étaient de 4% de la masse salariale des entreprises. En 2010, malgré la crise, Nous sommes à 13% de la masse salariale. Le théorème de Schmitt n'est qu'une théorie et ne s'applique malheureusement pas à la réalité. Mais n'oublions jamais que rien ne se produit sans le travail. Même la spéculation nécessite un spéculateur. Le travail, loin d'être un coût, est avant tout un revenu. Il produit de la richesse. Le capital sans le travail, l'employeur sans l'employé, ne produit rien. L'utilisation du terme « coût » nous fait donc oublier que le travail est fondamental dans la production d'une richesse quelconque et nous fait croire à une hiérarchie qui n'est en fait qu'une construction de la pensée. Autre mot, autre pratique. Les charges sociales. Charges, ce qui pèse sur, ce qui cause de l'embarras, de la peine. Alors, dans notre société, les charges sociales correspondent aux cotisations patronales et cotisations personnelles prélevées par l'État sur le salaire. Ces cotisations servent à financer ce qu'on appelle les prestations sociales, c'est-à-dire les allocations familiales, les allocations chômage, la santé, etc. Il s'agit donc d'un processus de répartition des richesses, de redistribution, voire de solidarité. Une solidarité envisagée donc comme une charge. Comme toute charge, il est préférable de l'alléger. Il y a deux façons de le faire. La première est de réduire les contributions patronales. L'argument est toujours le même, celui de la compétitivité. Réduire les charges sociales permet, dans ce cas, de dégager une marge supplémentaire pour l'employeur, le capital, les actionnaires. Dans ce cas, donc, il y a un gain pour l'employeur, les actionnaires, le capital, et neutralité pour les salariés, sur le salaire direct. La deuxième façon de réduire ses charges sociales passe par la réduction des contributions personnelles. Les conséquences sont neutres pour l'employeur, tandis que les salariés perçoivent un gain sur le salaire direct. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, dans les deux cas, c'est à l'État de combler le trou laissé par la réduction de ses cotisations. Soit ce trou n'est pas comblé, et ce sont des pans entiers de nos mécanismes de solidarité qui s'écroulent, soit ce trou est comblé par des politiques fiscales telles que la TVA. Le gain pour le salarié généré par la réduction des cotisations personnelles fiscales est alors annulé par l'augmentation de la TVA. C'est donc à la collectivité de contribuer encore un peu plus aux mécanismes de solidarité. Le problème, c'est que vu le taux de chômage grandissant, le nombre de travailleurs qui cotisent diminue. Et comme la TVA augmente, le pouvoir d'achat diminue aussi puisque les prix augmentent. Jusqu'à quand donc la collectivité pourra-t-elle soutenir ces mécanismes? Puisque moins de recettes dans le portefeuille de l'État signifie que les parts redistribuées seront soit plus petites, soit moins nombreuses. Mais ce que l'on dit moins, c'est que la réduction des cotisations sociales, au pire, ne rapporte rien aux entreprises. Au mieux, elle génère des gains en cas de réduction des cotisations patronales. Si le prélèvement se fait de plus en plus après le partage entre profit et salaire, cela conforte l'employeur et le désengage quasi totalement des mécanismes de solidarité. Et c'est ce qui se produit. En 1996, en Belgique, les réductions des cotisations patronales s'élevaient à 300 milliards. En 2012, on parle donc de réduction, elle s'élève à 500 milliards. La réduction des cotisations personnelles, quant à elles, sont passées de zéro en 1996 à 720 millions. Et quelle proposition le gouvernement actuel met-il sur la table il n'y a pas deux jours? Celle d'augmenter la TVA, la faire passer de 21 à 22% pour réaliser une marge de 1,1 milliard d'euros et réduire, je cite, les charges sociales sur le travail. Ce même économiste, dont je ne citerai pas le nom, vante les mérites de la TVA. Elle représente 16% des recettes fiscales de l'État belge, soit plus de deux fois le rendement de l'impôt des sociétés. Super. On voit donc parfaitement le mécanisme à l'œuvre. D'un côté, on réduit les cotisations sociales patronales, et de l'autre, on augmente la TVA pour combler les pertes. Les sociétés contribuent de moins en moins par le biais des cotisations patronales, mais ne contribuent pas beaucoup plus par le biais de l'impôt. Mais ça, c'est un autre sujet. Percevoir les contributions sociales comme une charge engendre donc d'une part un désengagement du capital en vertu de la compétitivité et d'autre part le risque de l'effondrement des mécanismes de solidarité. Si les contributions s'amenuisent de plus en plus, l'État ne pourra combler le trou laissé par les réductions incessantes. Un trou dans lequel s'engouffreront avec choix, avec joie, les investisseurs privés. Nos hôpitaux ? Privés. Notre sécurité sociale ? Privée. Nos écoles ? Privées. Nos pensions ? Privées. Bref, il deviendra très difficile pour les bas revenus de se soigner, impossible pour ceux qui en auraient plus. C'est le scénario catastrophe. Heureusement, on n'est pas encore là, pourvu qu'on n'y arrive pas. Mais, ensemble, nous produisons par le biais des contributions sociales 1/5 du PIB de la Belgique. 1/5 du PIB de la Belgique échappe donc à l'économie capitaliste. Ces charges sociales ne sont donc absolument pas des charges, mais bien des contributions, des investissements dans la chose publique, dans la collectivité. Nous sommes donc capables de produire des soins de santé de qualité, un enseignement de qualité en mettant en commun nos ressources. Cela pourrait être encore mieux si le capital s'y mettait également. Mais ne laissons surtout pas cet embryon de solidarité se faire engloutir en vertu de la compétitivité. Et la compétitivité, parlons-en. Compétitivité, caractère de ce qui est compétitif. En économie, la capacité à conserver ou augmenter ses parts de marché, toujours selon le Robert 2002. L'ancien gouverneur de la Banque centrale, Jean-Claude Trichet, nous dit qu'une nation peut être compétitive et que pour une nation, être compétitive, c'est la capacité d'un pays à améliorer de façon durable le niveau de vie, en termes économiques, de ses citoyens et de favoriser les créations d'emplois dans une économie ouverte. Le terme de compétitivité a investi toutes les sphères de la société. Il faut être meilleur que son voisin. C'est devenu la seule façon de se différencier, de trouver une place. Le glissement de ce terme économique dans d'autres domaines que celui-là est clairement un non-sens qui a des conséquences perverses. Mais abordons son sens économique. Au début des années 80, toujours ces années 80, c'est le tournant néolibéral qui place la compétitivité en haut des préoccupations et comme premier moteur de la croissance. Comment est-on compétitif ? Il existe trois formes de compétitivité. La compétitivité prix, la compétitivité coût et la compétitivité hors prix. La première est la garantie des prix les plus bas. La deuxième est la garantie des coûts de production des plus bas. Et la troisième est la garantie de la meilleure qualité des produits. Dans les trois cas, la compétitivité profite avant tout aux consommateurs, qui ne sont d'ailleurs plus que cela. Elle leur garantit des biens et des services au meilleur prix et de meilleure qualité. Ces bienfaits pour les consommateurs vont justifier une politique implacable de protection de la concurrence. Comment ? En permettant qu'elle soit libre et non faussée. Libre, plus d'obstacles ne peuvent entraver les quatre libertés sacro-saintes de l'Europe. Liberté de marchandises, liberté des capitaux, la liberté de la circulation et la liberté des services. Non faussés, les monopoles, les subventions publiques doivent être supprimées. Ça, c'est pour la définition. Et en pratique, reprenons, les monopoles doivent être supprimés. Or, on a deux mots pour vanter, applaudir des opérations de fusion et d'acquisition, d'OPA et de consolidation qui n'ont d'autre fonction que celle d'agrandir les structures existantes. En d'autres termes, ces opérations créent des monopoles. Dans l'automobile, par exemple, en 2005, les 5 premiers constructeurs contrôlaient 75% du marché mondial. Microsoft Windows détient 95% du marché mondial pour les systèmes d'exploitation. En 2006, Kellogg's détient 44% du marché français. Au plan mondial, deux multinationales américaines, Cargill et ArcelorMittal, contrôlent 70% de la production. N'est-ce pas exactement le contraire d'une concurrence non faussée ? Mais quand il s'agit d'un monopole public, c'est-à-dire la propriété collective d'un secteur économique, on parle volontiers de concurrence déloyale. Les monopoles publics contreviennent aux règles de la concurrence. En réalité, la concurrence ne se fait plus entre les sociétés, mais entre les travailleurs. Si les biens produits par les quasi-monopoles ont tendance à diminuer, ce n'est pas à cause des pressions exercées par les rares concurrents, mais bien grâce, notamment et surtout, à la division internationale du travail. Les travailleurs, à travers leur salaire, deviennent des variables d'ajustement à la concurrence extérieure. Les travailleurs européens, d'ailleurs, n'ont jamais été plus en concurrence que depuis l'avènement du marché unique. Car les seules différences entre les pays ne sont plus les droits de douane, mais bien le salaire des travailleurs ou le régime fiscal des pays. Or, en paraphrasant Trichet, un pays doit être compétitif. C'est de cette façon qu'il rend ses citoyens heureux. Quoi de plus normal dès lors d'attirer par toutes les manières les investisseurs dans leur pays par des régimes fiscaux avantageux ou de réduire les coûts du travail pour permettre l'épanouissement des citoyens. Combien de fois n'avons-nous pas entendu dans les médias ces dernières semaines le handicap qu'avait la Belgique avec ses salaires beaucoup trop élevés? Mais nous l'avons vu, la concurrence n'existe pas. L'argument de la compétitivité n'est en fait qu'un prétexte pour diminuer la part salariale ou les coûts de production de l'entreprise et augmenter ainsi le revenu qui sera ensuite redistribué en dividendes aux actionnaires. Et le consommateur là-dedans, celui à qui la compétitivité profite normalement le plus et celui pour qui on la protège. Le problème avec le consommateur, c'est que c'est aussi un travailleur. Or, quelles sont les conséquences pour l'emploi de la compétitivité ? 1. Des délocalisations, synonymes de perte d'emploi ici et des conditions de travail souvent peu décentes là-bas. Des pertes d'emploi tout court, dans les secteurs identiques plus petits. Ainsi, on dit qu'un emploi créé en grande surface, c'est 3 à 5 emplois détruits ailleurs. Et troisième conséquence pour l'emploi, les privatisations des services publics augmentent les prix. Par exemple, l'ouverture des électriciens à la concurrence entre 2001 et 2006 en Europe a engendré une envolée du prix du marché de l'électricité, 39% de plus en Espagne, 49% en Allemagne et jusqu'à 67% de plus en Finlande. L'argument de la compétitivité est donc un leurre. Mais en prenant les consommateurs et les travailleurs comme otages, cet argument est très fort. Redevenons donc des citoyens et non des consommateurs. Mais quels sont les liens entre ces pratiques et le chômage? Eh bien, c'est simple. La réduction du coût de travail engendre des délocalisations et donc des pertes d'emploi. La réduction des charges sociales diminue la caisse collective servant à financer les allocations de chômage. Dans un même temps, donc, on assiste à une augmentation des allocataires de chômage et à une diminution des recettes pour les financer. Peut-être est-il temps d'envisager le travail comme un revenu, les charges sociales comme des contributions, et éradiquer définitivement le terme de compétitivité. Première étape, changeons notre vocabulaire pour changer notre manière de concevoir le monde. Les mots du néolibéralisme sont aussi ceux de la résistance à sa domination, nous dit Matteo Alalouf.